Chapitre 20. La fuite. Il y avait une semaine que Mademoiselle de Bois-le-Roi avait quitté le grand cloître pour habiter ce pavillon, situé dans la partie la plus reculée du parc, non loin du sentier qui séparait le superbe enclos des Feuillantines de l'enclos plus vaste appartenant aux dames Ursulines. C'était une petite maison toute neuve qui avait été bâtie par la supérieure actuelle du couvent pour son propre usage. Elle y faisait ses retraites et les sœurs relevant de maladie y venaient passer quelques jours de convalescence. Mademoiselle de Bois-le-Roi était là comme en un lieu de transition entre le cloître et le monde. Ceci est malaisé à dire pour moi, mais j'y suis contraint par la vérité. Mon souvenir était si puissant dans le cœur d'Hermine que tous ses efforts pour le chasser étaient restés sans résultat. Elle avait fini par confesser, après bien des luttes, que la vocation ne lui venait point. Madame de Soyecourt, miséricordieuse et sainte femme, n'avait pas combattu cette détermination. Hermine devait passer un mois dans la retraite avant de revoir le monde, et c'était tout. On lui avait rendu Babette. Elle avait en outre deux sœurs pour compagnes et pouvait recevoir des visites. Nous n'avons pas oublié que le comte Olivier de Raguenel était le neveu de Madame de Soyecourt. Il avait ses entrées au pavillon, et pour un excellent motif. Hermine le recevait avec plaisir, mais c'était pour parler de moi, et je dois dire que ce brave Raguenel, le plus loyal, le meilleur cœur qu'il m'ait été donné d'admirer en ma vie, ne se rendit pas une seule fois coupable de médisance à mon égard. Le thème était riche pourtant. Les philosophes et autres gens qui savent toutes choses n'ont pas encore dit aux pauvres d'esprit tels que nous pourquoi les anges ne recherchent jamais les saints quand il y a un pécheur à porter. Supposez le saint beau comme tous les amours mis ensemble, l'ange ira toujours d'un autre côté. Pauvre chère, pauvre douce Hermine, elle ne voyait même pas cette créature intelligente, robuste, héroïque et capable d'un merveilleux dévouement. Elle ne voyait que moi, et sans même y songer, elle infligeait à Raguenel ce supplice suprême de le choisir pour confident. Et le monde en ceci est un peu comme les anges. J'ai vu la vogue, qui est une femme, se tromper souvent d'une façon si lamentable que je songeais malgré moi à cette petite demoiselle dont la gourmandise perverse dédaignait les bonbons pour dévorer des araignées. Babette et moi, nous ne mîmes pas la moitié d'une minute à gagner la chambre à coucher de Mademoiselle de Bois-le-Roi. On venait de la réveiller et, sauf la fumée qui montait à chaque instant plus épaisse, elle ne pouvait encore se rendre aucun compte des progrès de l'incendie. Elle s'habillait en hâte, mais avec calme. Le lecteur sait comment elle était brave. Quand elle me vit, elle devint très pâle. « Mademoiselle, dit Babette, voici monsieur le chevalier qui vient vous chercher. J'ai déjà refusé de fuir, répliqua Hermine. Pourquoi fuirais-je? Ici, on a été bon pour moi. Il n'y a qu'à traverser les jardins. Nous trouverons un asile auprès de madame la supérieure. » Elle me tendit la main. Babette se pencha à son oreille et lui dit « C'est Bertrand de Saint-Pierre qui a mis le feu. Entre vous et le logis de la mère supérieure, l'enclos est plein de bandits. » Un coup de vent rabattit les flammes du toit qui s'échevelèrent au-devant de la croisée. Hermine se serra contre moi. « Ils viennent! Ils montent !» cria une des religieuses qui entra les cheveux épars. « Nous allons être sauvés !»« C'est Bertrand !» dit Babette à Mademoiselle de Bois-le-Roi. « Vous êtes perdue !» Alors Hermine se pendit à mon cou et murmura « Emmenez-moi !» Babette avait fermé à double tour la porte par où la sœur venait d'entrer. On y frappa, et cette fois je reconnus parfaitement la voix de l'apôtre Saint-Pierre qui criait « Ouvrez ! Il y va de la vie ! Dans une minute, il sera trop tard !» Hermine, frémissante, m'entraîna elle-même vers l'autre porte. La religieuse nous suivit. Elle était folle de terreur. Aussitôt que nous fûmes dehors, le grand éclat de l'incendie nous enveloppa. Nous étions sortis par les derrières. Babette nous fit traverser en courant l'espace libre qui entourait le pavillon, et nous nous enfonçâmes dans les massifs. La religieuse, qui s'était retournée pour voir le feu, ne nous apercevant plus, se mit à crier et à courir autour de la maison. Ce fut ce qui nous sauva en ce premier moment. Les bandits, en effet, s'attardèrent à la poursuivre et à la capturer. Babette nous conduisit tout droit à la voiture, dont la présence en ce lieu était une énigme de plus. Ce n'était pas Raguenel qui l'avait commandée, ni Catiche, quoique celle-ci, dans les derniers temps, se fût mêlée des affaires de Mademoiselle de Bois-le-Roi. Catiche n'était restée que 24 heures en prison. Pour en revenir à ce mystérieux carrosse, je soupçonnais, d'après ce que me dit Babette, que Monsieur de Sartine n'était pas étranger à l'aventure. Babette alla jusqu'à me dire que les gens qui rôdaient cette nuit dans le parc n'étaient pas tous des bandits, et nous eûmes à l'instant même une preuve. En effet, au moment où nous abordions le massif derrière lequel se cachait la voiture, deux hommes sortirent de l'ombre et l'un d'eux me dit « Prenez, s'il vous plaît, un autre chemin, monsieur le chevalier. Les gens de Ville de Gousset se sont emparés du carrosse. »« Ville de Gousset ?» répétai-je. L'homme m'interrompit, ajoutant « Allez, monsieur, et dépêchez !» Hermine ne prononçait pas une parole. Elle pressait mon bras, qui la soutenait, contre son cœur. Babette, cependant, avait repris sa course. Le feu éclairait les bosquets de fantastiques lueurs. Nous arrivâmes à l'une de ces grandes murailles qui bordaient l'enclos et dont j'avais mesuré la hauteur le soir de mon entrée à Paris. De là, on voyait la petite maison en flammes et l'incendie illuminait, comme eût fait le plein jour, une large allée qui conduisait à une porte basse. Ce n'était pas celle par où j'avais été introduit tout à l'heure. Comme nous approchions de cette porte, j'aperçus une masse sombre pelotonnée au pied du mur. Elle remua, puis se dressa. C'était un homme enveloppé d'un manteau. « Monsieur le chevalier, me dit-il en tournant la grosse clé qui était dans la serrure, ayez la bonté de passer prestement. Ils peuvent vous voir et la gâchette d'un pistolet est bientôt lâchée. » La porte était ouverte, nous passâmes. « Vous, la jolie fille, dit l'homme en barrant le chemin à Babette, vous allez rentrer, vous faire poursuivre et jouer à cache-cache avec ces coquins-là dans l'enclos.
« Je veux bien, » s'écria la vaillante fillette. « Babette, ma pauvre Babette !» supplia Hermine. « Bonsoir, notre demoiselle !» fit la vitrieuse en redressant crânement sa courte taille. « Paraît que je vais être bonne à quelque chose une fois en ma vie. Ne vous embarrassez pas de moi. Bonsoir, à revoir !» Elle rentra sous bois et nous ne la vîmes plus.
L'homme au manteau me dit « Monsieur, vous êtes dans le chemin qui sépare les deux enclos. Le faubourg Saint-Jacques est ici vers la droite, mais la bande tout entière de Ville de Gousset doit être sur pied cette nuit. Prenez à gauche, tournez l'abbaye du Val-de-Grâce et prenez le boulevard. Ne rentrez pas, croyez-moi, dans Paris avant d'avoir passé toute la pépinière et même le clos de Notre-Dame-des-Champs. La ville par ici sera bien déserte ce soir. Je voudrais pour vous que vous fussiez déjà de vers le pont de Louis XV. Si vous étiez attaqué en chemin, appelez au secours en criant votre nom. Il y a des ordres. »
Il me salua et referma la porte basse. Au même instant, il y eut des cris dans le parc et un bruit de lutte. Plusieurs coups de pistolet furent tirés. Je pris avec Mademoiselle de Bois-le-Roi la direction qu'on m'avait indiquée. Tant que nous fûmes dans le chemin qui séparait les deux couvents, nous ne rencontrâmes âme qui vive. Je sentais Hermine bien tremblante à mon bras, mais elle marchait ferme, et quand je l'interrogeais, elle me répondait avec sa douce voix. « Vous verrez que j'ai du courage. »
Au bout du chemin, en tournant à gauche, nous aurions été bien vite dans la ville en descendant au quartier Sainte-Geneviève par la ruelle du Pot-de-Fer Saint-Marcel. Mais, outre que ces parages étaient des plus malfamés, je tenais à suivre mes instructions à la lettre. Je mesurais la responsabilité qui pesait sur moi. Nous fîmes donc le grand tour en remontant du côté des Capucins. Les événements que je viens de raconter s'étaient succédés rapidement. Comme nous changions pour la deuxième fois de direction en poussant vers Port-Royal, le clocher du Val-de-Grâce sonna 8 heures. Je n'ai jamais vu de nuit plus noire, ni de temps plus orageux. L'atmosphère pesait sur nous comme un plomb. La première rencontre que nous fîmes fut au coin de la rue d'Enfer,
après avoir passé le faubourg Saint-Jacques. Il y avait deux hommes qui fumaient leur pipe aux deux angles de la rue. Comme je sentais Mademoiselle de Bois-le-Roi déjà fatiguée, l'envie me prit de tourner court pour rentrer dans Paris. « Par ici, vous aurez de la peine à passer !» me dit l'un des deux hommes. « Prenez toujours à votre gauche, monsieur de Kéramour. »« Mon ami, » répondis-je, « je vous donnerai 10 louis si vous voulez m'avoir un fiacre. » « Descendez par Notre-Dame-des-Champs, il y a là de notre monde. La demoiselle se reposera si elle est trop fatiguée. Un fiacre et un merle blanc, c'est tout un cette nuit. »«
Je suis forte, » me dit Hermine, « et je suis heureuse. Si j'étais sûre que vous m'aimez, Gaston, j'irais au bout du monde. »